Pierre Larocque, premier directeur général de la Sécurité sociale, disait en 1960 « La sécurité sociale, ce n'est pas une charge, c'est un bien commun. Un investissement dans la dignité. » Cette année, la Sécurité sociale fête ses 80 ans. Pour célébrer ce système de solidarité, différents acteurs de la région ont collaboré sur le projet Grand Est, intitulé « La sécurité sociale à 80 ans en 2025 ». Aujourd'hui, nous accueillons trois personnes qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons Étienne Thévenin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du comité scientifique de l'ARES, Association régionale pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale, et directeur du département d'histoire sur Nancy. Nous avons aussi Moussa Aridja. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adhérent CNAES, conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, et vous avez un master en sociologie.
C'est exact.
Et aussi, nous avons Jacques Bergeret, coordinateur du projet Grand Est, la sécurité sociale à 80 ans en 2025 et délégué CNAES Grand Est. Bonjour.
Et aussi secrétaire de l'ARES, Association d'histoire de la sécurité sociale pour la Lorraine-Champagne-Ardenne.
D'accord.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. D'abord, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs dans quel contexte le système de la sécurité sociale s'est créé ?
Voilà, eh bien, la sécurité sociale... Et elle est issue de la volonté du Conseil national de la Résistance en 1944. Le général de Gaulle souhaitait que soit organisée la France de l'après-guerre. Et on travaillait collectivement des représentants des différents acteurs de la Résistance. On travaillait ensemble des... personnalités issues du monde politique, du monde syndical. Alors, les syndicats et les politiques avaient été interdits par le gouvernement de Vichy, mais ils étaient actifs dans le cadre de ces institutions. Un certain nombre de personnalités étaient particulièrement actives. Je pense au communiste Ambroise Croizat, mais il n'était pas seul. Il y avait aussi des militants socialistes, démocrates, chrétiens. Et puis, il y avait Pierre Larocque, que vous avez cité, qui avait été nommé par le général de Gaulle pour coordonner ces travaux, et l'idée était de créer une solidarité concrète entre les personnes de différentes générations, entre les malades ou les accidentés du travail et les bien portants, et cela en essayant de construire de manière concrète, cette solidarité. Et donc, la sécurité sociale est née dans une situation de grand chaos en France. Elle n'est pas née de la prospérité, mais elle est née dans une période de crise, de reconstruction, et elle a précédé la prospérité dite des Trente Glorieuses. La France n'était pas seule à s'engager dans cette voie. Les Britanniques aussi mettaient en place un modèle un peu différent d'État-providence, disaient certains. L'Allemagne, dès la fin du XIXe siècle, avait aussi mis en place une sécurité sociale. Et cette sécurité sociale a précédé le grand essor industrielle et économique de l'Allemagne. Et je crois qu'il faut déjà insister sur ce point. La sécurité sociale a non seulement permis à un très grand nombre de familles d'éviter de tomber du jour au lendemain dans la grande pauvreté à la suite d'une maladie, d'un deuil, d'un accident du travail, mais elle a aussi créé des conditions qui ont aidé au relèvement économique. Il ne faut pas séparer l'économique et le social, mais elle repose sur un pari de solidarité qui était voulu, souhaité par celles et ceux qui s'étaient engagés dans la résistance.
D'accord. Et quelle était donc la première forme de la sécurité sociale ?
Il s'agissait d'associer ceux qui, enfin, pour gérer des caisses, des représentants des salariés, et des représentants des employeurs. Et que ces représentants soient aussi des acteurs de la santé de toutes et de tous. Et donc, il fallait aussi élire ces personnes qui se trouvaient ainsi en capacité de décider. Ce qui n'était pas d'ailleurs sans effrayer. Certains se disant, mais est-ce que l'on ne met pas en place des comités révolutionnaires ? Est-ce que... Il y a eu énormément de craintes, de peurs, et alors que le projet visait au départ à rassembler tous les Français, au moins l'immense majorité d'entre eux, dans certains milieux professionnels, on n'a pas souhaité s'engager tout de suite dans ce que l'on appelle le régime général de sécurité sociale. Beaucoup regardaient, observaient, se demandaient si ça allait marcher. Et puis au fil des années, voyant que ça marchait, donc ils ont demandé à rejoindre le régime de sécurité sociale. Et donc il y a eu des étapes. Rappelons quand même que quand on a une espérance de vie de 60 ans, hein, à peu près, au sortir de la guerre en moyenne, et la mise en place du système de sécurité sociale qui permettait un accès aux meilleurs soins du plus grand nombre, n'a pas été pour rien dans l'élévation de l'espérance de vie en France. J'aimerais simplement un chiffre. On ne peut pas dire que la recherche médicale soit en retard aux États-Unis, hein, mais aujourd'hui, l'espérance de vie en France, elle est en moyenne de 5 ans, plus élevée qu'elle ne l'est aux États-Unis. Prenons un autre exemple. Des pays qui sont venus plus tardivement à des systèmes de sécurité sociale, je pense à des pays comme l'Espagne, l'Italie, eh bien, ont vu à ce moment-là bondir l'espérance de vie. Donc, il y a un effet que l'on peut mesurer, qui est vérifié, non seulement en France, mais dans les pays qui se sont dotés d'un puissant système de sécurité sociale, et à l'inverse, ceux qui n'ont pas fait ce choix, ben, on en voit quand même les conséquences.
Et pourquoi il était important pour vous de célébrer l'histoire de la sécurité sociale ?
Ça me donne l'occasion de dire quelques mots quand même sur ce qu'on a appelé le projet La sécurité sociale à 80 ans, mais c'est le projet Grand Est. L'initiative a été prise par les trois associations que sont le CNES, on en a parlé tout à l'heure, l'ARES, Lorraine Champagne-Ardenne, mais également le comité d'histoire de la sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, qui a un régime particulier. Notre idée l'année dernière était de dire on va faire quelque chose, on ne peut pas rester inerte, parce que la sécurité sociale, pour beaucoup de gens, on est dans une perte de sens. On ne sait plus très bien comment c'est arrivé. C'est fonctionnel. On a une carte qui est quand même intéressante parce que ça nous permet de ne pas payer directement quand on va à la pharmacie les médicaments. Donc, quelque part, c'est une boîte de distribution. Et on s'est dit, il faut absolument avoir une réflexion collective avec les citoyens, quel que soit leur âge. Et on va susciter un certain nombre de manifestations. On en a monté 13. La plupart se sont déjà déroulées. Il en reste encore 3, dont un beau colloque à la Fac de droit de Nancy le 27 et le 28 septembre prochain, qui peut intéresser les étudiants. Alors, nos attendus, c'était d'une part, de restituer l'assise du monde du travail à l'histoire de la sécurité sociale. C'est pas né de rien. C'était à la suite de luttes sociales. C'est un acquis de haute lutte, en réalité, dans l'adversité, avec beaucoup de gens qui n'en voulaient pas. À l'époque, il y avait seulement un tiers de la population qui était couvert. Et l'aspiration de la sécurité sociale, c'est que ce soit pour tous. Je note au passage qu'on a attendu le 1er septembre 2019 pour que les étudiants qui étaient affiliés à une mutuelle étudiante basculent automatiquement et gratuitement au régime général et ont été rattachés à la Caisse d'assurance maladie, la CPAM, de leur lieu de résidence. Alors, donc, restituer l'assise du monde du travail, c'était la première chose. Le deuxième élément, c'était rendre compte des développements intervenus depuis. La gouvernance, la création du cinquième risque pour la vieillesse, etc., en lien avec l'évolution de l'âge. Et puis, la modernisation et la gestion de l'organisme dans l'intérêt des usagers. On est passé du papier à la mécanographie, puis au numérique, et maintenant, on a la carte vitale. Bon, et ce sera quoi après ? Le troisième point, c'était débattre des aspirations contradictoires qui conditionnent l'avenir de cette institution. Les institutions, elles naissent, Elles vivent, elles peuvent se développer, mais elles peuvent aussi craquer et disparaître. Et aujourd'hui, les enjeux sont considérables par rapport à des forces qui étaient déjà présentes en 1945, mais qui continuent de s'exprimer, qui ne cherchent pas du tout à développer la sécurité sociale pour tous, qui préfèrent y substituer un système assurantiel en fonction de ce que tu payes, tu as. Et on se fout des autres. Donc la question de la solidarité est posée comme un principe important et il nous paraît important de nous adresser à la jeunesse. Et merci de nous recevoir ce soir pour évoquer ça et aussi introduire une forme de mobilisation. Je dis juste deux mots pour illustrer les manifestations. On a eu un ciné-débat avec le film La Sociale au Caméo de Nancy, c'était au mois de mai. On a eu la même chose au Casino de Jeuf au cinéma le 16 octobre dernier. Mm-hmm. On a eu un colloque à Strasbourg à la CARSAT le 21 mai. On a eu un beau colloque à Troyes dans l'UTT, donc avec l'université, le 2 octobre. On a des conférences sur les questions de l'alimentation qui ont été évoquées tout à l'heure, avec l'idée d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation. On a eu une conférence aussi sur la question de la mort, que notre société n'aborde pas trop. Oui. Avant la naissance, on est pris en charge. La maman est suivie par la protection maternelle et infantile. Quand vous allez à la maternité et que vous êtes une femme, vous êtes pris à 100%. Ensuite, la PMI continue. Et la vieillesse maintenant avec le cinquième risque. Dans notre temps, ben voilà, vous avez la carte vitale. Mais quand vous mourrez, votre corps n'intéresse plus personne. La famille doit se débrouiller. Sauf dans quelques cas, voilà, accident du travail, des choses comme ça. Et donc, il y a une aspiration, pourquoi est-ce que les pompes funèbres, en quelque sorte, les Roc Éclairé et compagnie, ils pourraient continuer de fonctionner à titre privé, mais pourquoi est-ce que la sécurité sociale ne prendrait pas en compte cette affaire-là? Voilà, c'est souvent les plus pauvres, d'ailleurs, qui dégustent particulièrement. Autre chose, c'est la soirée débat qu'on a eue à Bruyère, avec l'intervention de Gérard Filoche, et puis une scène, peut-être notre ami Moussa Haridja pour en dire quelques mots, parce que c'est une pièce qu'il a faite sur les idées reçues de la sécurité sociale. Alors, on peut se marrer aussi avec la sécurité sociale, parce que souvent on dit la sécurité sociale, c'est barbant. Non, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et qui nous touche tous, au plus profond. Et puis, on a aussi prévu le 24 novembre à Mulhouse, une réflexion avec des étudiants sur toutes ces questions-là, aussi sur la question de la pauvreté des étudiants, la question de l'alimentation des étudiants. Il y a quelque chose qui ne va pas pour le moment, avec tous ces étudiants qui crèvent un peu la dalle, qui se fatiguent parce qu'ils sont obligés de travailler au lieu de garder leur force pour leurs études. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont considérables. Et puis, il y a aussi avec Citoyenneté Active Lorraine, un travail qui a été fait avec un questionnaire dans un quartier politique de la ville à Jarville. Donc on va avoir aussi des discussions avec les gens dans ce quartier-là, peut-être une chose plus longue. Aussi une table ronde à Strasbourg sur la sécurité sociale et la redirection écologique et sociale. Bon, bref, vous voyez, une série. Mm-hmm. Et donc on a de manière prismatique un certain nombre d'éléments qui permettent de faire débat. Donc le débat est ouvert. Les étudiants sont invités, évidemment, à donner leur avis. Mais j'ai entendu qu'il y avait un micro-trottoir. On va être très intéressés par ce qu'ils ont dit.
Et donc, vous organisez un colloque à la faculté de droit du 27 au 28 novembre pour revenir sur l'historique du système et les enjeux de son avenir. Quel est le programme?
Alors, d'abord, c'est quelque chose qui est monté en partenariat grandement avec, bien sûr, l'Institut François Génie. On est avec la fac de droit, sous la direction scientifique de Christelle Meffray Del Santo. Qui vient au passage d'être nommé dans le midi, hein, mais qui continue de travailler ici et aussi à l'Institut du Travail, et donc en partenariat aussi avec la RES, avec le CNES. Donc il y a trois grands axes. Un, pour faire simple, qui porte sur comment s'est arrivée la sécurité sociale. Donc c'est la question de l'histoire. Un deuxième grand axe qui va être sur mais comment ça a évolué la sécurité sociale. Et puis un troisième, c'est le débat sur où on en est aujourd'hui et quelles sont les forces contradictoires et vers quoi on va. Autrement dit, c'est la question de l'avenir.
Je crois d'ailleurs qu'il est important de bien montrer que le contexte a beaucoup évolué. Quand elle a été fondée, la sécurité sociale s'appuyait sur les cotisations des actifs à une période de plein emploi. Mmh. Et pour en bénéficier, il fallait justifier d'un emploi ou, si on n'était pas inséré dans le monde de l'emploi, on était ayant droit d'une personne. Alors souvent, si les enfants ou l'épouse, le taux d'emploi féminin n'étant pas ce qu'il était, était ayant droit. Seulement, depuis, eh bien, le chômage de masse est arrivé. Et puis, il y a eu des ruptures de liens familiaux dans le couple ou entre les parents, de sorte que beaucoup de personnes se retrouvaient sans couverture sociale et donc sans soins. Et donc, il a fallu s'adapter. Alors, il y a eu la CMU, la couverture médicale universelle, il y a eu aussi le RMI, mais voilà, il a fallu à chaque fois réinventer. Et puis, quand a été mise en place la sécurité sociale en 1945, l'espérance de vie était à 60 ans, l'âge légal de la retraite était à 65 ans. Mmh. Voilà, donc le nombre de ceux qui en bénéficiaient était limité. Aujourd'hui, c'est évidemment tout différent. On a une espérance de vie supérieure à 80 ans, donc la situation n'est plus la même. Dans les tout débuts de la sécurité sociale, 40% des prestations concernaient les allocations familiales, par exemple. Aujourd'hui, c'est tout différent. Donc, il a fallu une adaptation permanente. Et c'est aussi cela que l'on va montrer, ce qui signifie qu'il y a des défis aujourd'hui. Il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés, mais les défis ont été relevés au cours des générations précédentes. Alors, pourquoi ne le serait-il pas aujourd'hui?
Donc, il y a aussi... tu voulais dire...
J'ai envie de dire que oui, si les défis ont pu être relevés aussi aux différentes périodes, c'est aussi parce que au niveau budgétaire, on a sans cesse adapté le budget. Il y a une époque, il n'y a pas plus tard qu'il y a une trentaine d'années, jusqu'au milieu des années 90, ça ne choquait pratiquement personne que le taux de cotisation augmentait périodiquement pour suivre justement les besoins de financement du système. Et à partir effectivement du milieu des années 90, un certain Alain Juppé, qui était Premier ministre, a fait une grosse réforme de la sécurité sociale. D'un côté, il a changé la gouvernance. On est passé à un régime exclusivement géré par l'État, alors qu'avant, on était sur un régime... tripartite, comme ça a été rappelé. Et au niveau du financement, le plan Juppé a décidé de geler le taux de cotisation. Et à la place, il a dit maintenant, toute hausse de besoin de financement ne sera plus financée par une hausse de cotisation, mais par des emprunts sur les marchés financiers. Alors là, ça a créé quelque chose de pas très cool, on va dire. Ça a créé une dette. Et une dette, ça s'en rembourse. Et puis par an, ça coûte quelque chose comme 17 milliards à la Sécu. Donc ça contribue à ce qu'on appelle le trou de la Sécu, qui est une vieille histoire.
Mais justement, j'avais une question par rapport... Ouais. Justement, il y a des discussions à l'Assemblée nationale en ce moment sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Hier, la gauche a remporté une victoire avec l'adoption de la hausse de la contribution sociale générale pour financer la suspension de la réforme des retraites. Êtes-vous optimiste sur le budget à venir?
Alors là, c'est une question un peu épineuse. La CSG, si on fait un peu l'historique... Alors la CSG, quand ça avait été créé au début des années 90, ça avait un peu pour volonté. C'était à l'époque, c'était un peu perçu comme un cheval de Troie par les militants des premières heures de la Sécu, quoi. Parce que la Sécu, au tout début, comme l'a très bien rappelé Étienne Thévenin, c'était financé quelque chose comme 80 voire 90% par les cotisations, donc c'est énorme. Et en fait très très vite, en fait, l'État à sa manière, enfin, a essayé à différentes manières d'asseoir un peu son autorité, quoi, sur ce système là
sur les moyens de financement,
sachant qu'il y a eu aussi une réalité, ce sont d'énormes gains de productivité qui font que, d'un côté, il y avait moins de personnes employées dans certains secteurs d'activité, mais en même temps, des productions, donc des richesses, qui étaient sinon égales, au moins même supérieures. Donc, le problème était effectivement quelles richesses mobiliser pour financer la sécurité sociale.
Et donc, il y a effectivement à la fois un chômage de masse, des personnes qui ont des compétences qui peuvent être employées, en même temps des gains de productivité. Et c'est là que l'on voit qu'on a un environnement qui est en pleine mutation, avec, comme l'indiquait très bien Moussa aussi, l'intervention, enfin les pressions internationales, parce qu'il y a des emprunts auprès de fonds financiers divers. Donc voilà, on est dans une situation qui est bien différente de celle qu'on a connue à d'autres moments, mais en même temps qui n'est pas désespérée. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler que, même si certains n'en ont pas conscience, la sécurité sociale crée des liens entre nous tous. Certains disent, bon, je suis jeune, après tout, pourquoi payer pour les plus anciens? Mais c'est aussi par la sécurité sociale que s'ils ont un accident lors de la pratique d'un sport ou lors d'un déplacement de circulation, c'est quand même la sécurité sociale qui intervient. Certains disent, bon, après tout, pourquoi payer pour les allocations familiales si je n'ai pas d'enfants? Mais ce sont ces enfants qui, plus tard, payeront des cotisations quand cette personne sera plus âgée. Donc, il y a une interdépendance sociale qui, de fait, existe. Et si elle s'arrêtait du jour au lendemain, eh bien, beaucoup seraient laissés pour compte, parce que certains pourraient, certes, peut-être payer par eux-mêmes, mais pour une large majorité, ce ne serait pas le cas, ou tout au moins, ils ne pourraient pas accéder aux meilleurs soins. Les soins primaires, peut-être, mais les meilleurs soins nécessaires dans un état d'affection, ce serait beaucoup plus compliqué.
Ouais. Alors, sur cette question des budgets, bien sûr, pour le moment, nos élus, on attend qu'ils votent ce budget de la sécurité sociale. Le coût, plus exactement l'ensemble de ce que ça représente, était déjà en 1945 plus important que le budget de l'État. C'est considérable. Gérard Filoche, le 31 octobre dernier, à Bruyères, nous expliquait qu'il y a trois budgets en France. Pas deux, il y en a trois. Il y a le budget des collectivités territoriales, il y a le budget de la protection sociale et il y a le budget de l'État. Alors, le budget de la protection sociale, c'est 850 milliards. C'est le plus gros. On est tellement nombreux, 90% des actifs, 30 millions pour nos cotisations, c'est ce qui rapporte le plus. Alors, ce n'est pas le budget de l'État, donc c'est le budget de la protection sociale, et c'est le plus gros. 850 milliards environ, 500 à la louche pour la santé et la sécu, et puis 350 pour les retraites, ça fait 850 milliards. Le budget des collectivités territoriales, en comparaison, il est beaucoup plus petit. Il est autour de 280 milliards, ça doit être au-dessous de 300 aujourd'hui, autour de 300. Alors, d'accord, et le budget de l'État, il est plus petit aussi. Il se discute en ce moment, oui, mais c'est entre 500, 600 milliards, 850. Bon, on arrive à peu près au total à 1700 et quelques milliards qui font la totalité des trois budgets. Alors, ce qui est important à comprendre quand même, c'est que souvent, on fait comme si il y avait qu'un seul budget d'État. En réalité, il y en a trois. Et un des problèmes qui est lié à l'évolution de la sécurité sociale, c'est qu'à un moment, on a dit chacun des risques doit être autonome. On ne peut pas dire qu'ils se supportent les uns les autres. Alors, je reviens au colloque quand même qui est important, puisque le colloque de Nancy des 27 et 28 novembre, où les étudiants sont bien sûr invités, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire, c'est impératif avant. D'accord. Et on a fait le choix qu'on assume bien de dire il vaut mieux un amphi plein qu'un grand amphi où c'est dispersé. Voilà. Donc ça sera donc à la fac de droit, place Carnot, il y a 120 places. Donc si vous êtes intéressé, tout de suite, il faut vous inscrire. Et donc c'est fait.
Et donc on s'inscrit sur quel site?
Alors il faut aller sur le site de l'Institut François Génie.
D'accord.
Il y a un QR code et le QR code est sur l'affiche.
D'accord.
Il y en a en réalité deux QR codes. Il y en a un pour l'inscription et il y en a un pour le programme.
Okay.
Alors, sur le programme, donc, qui est monté avec l'Association française du droit du travail, la FDT, l'Institut François Génie, l'Association régionale pour l'histoire de la sécurité sociale, le CNES, et puis les organismes locaux de sécurité sociale du Grand Est aussi, la mairie de Nancy, l'Institut régional du travail social. Bon, tout ça est fortement intéressé pour monter sur Nancy un tel colloque qui va avoir une force universitaire importante. Et dans le programme...
Oui, c'est un colloque pluridisciplinaire.
Oui, c'est pluridisciplinaire.
C'est important de le dire.
Donc, ça démarre le premier jour à 8h30 avec l'accueil. À 9h, il y a l'approche historique avec Étienne Thévenin, qui est ici. L'histoire du droit avec le professeur Moncassin. Les partenaires sociaux, la protection sociale, ça sera avec le président de l'URSSAF, M. Haït. Un système initial sous tension avec M. Borghetto, professeur émérite de droit public. Voilà, puis on échange avec la salle. À 11h, on passe à 1946, à nos jours, les évolutions de la gouvernance et du financement, avec de nouveau Étienne Thévenin sur initiative et créativité régionale, l'exemple de la caisse régionale. L'évolution de la gouvernance et des relations avec l'État, avec le professeur Heinemann, avec le président du conseil d'administration du régime local d'assurance Alsace-Moselle, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis Bernard Friot, un ancien enseignant de la fac ici, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Nanterre. Voilà. Et puis les évolutions de la branche recouvrement sous l'effet des nouveaux enjeux, mondialisation, sécurisation juridique, relations avec les usagers, avec Franceschi, qui est le directeur régional de l'URSSAF Lorraine. Voilà. Et ensuite, l'après-midi, c'est de 1946 à nos jours. Voilà. Les mutations, les transformations des prestations, donc tout ce qui concerne l'évolution de l'accès aux prestations sociales, avec le professeur Marié, avec ensuite le point de vue des caisses, avec bon, je vais pas voilà la coloration répressive de la sécurité sociale, parce que dans les critiques qui sont faites à la sécurité sociale, c'est qu'il y a des gens qui abusent. Alors on le voit, bon, mais en réalité, on a bien vu que c'était en particulier, souvent, malheureusement, des acteurs de santé. Donc, bon, il y a les gens, il y a tout un chacun qui, de temps en temps, peut abuser un peu, mais les principaux abus ne sont pas là du tout.
Et puis, on voit aussi qu'il y a énormément de personnes qui ne font pas valoir leurs droits.
Et
en faisant les comptes, je crois qu'on s'est rendu compte, c'est pas Moussa, que ceux qui ne faisaient pas valoir leurs droits sont
plus
souvent
nombreux.
Plus nombreux que ceux qui abusent.
Voilà. Alors, on abordera aussi toute la question de l'indemnisation des accidents du travail. Voilà. Avec quelle évolution ? Avec le professeur émérite Askinazi Bayeux. Le regard de la caisse, une intensification de la prévention, avec la sous-directrice en charge de la branche maladie CARSAT Nord-Est, Madame Rotan. La cinquième branche, avec l'inspecteur général des affaires sociales, membre de l'IGAS, Monsieur Ferras. Bon. Et puis, le lendemain... Alors, ce sera sur les nouveaux défis. Voilà. C'est-à-dire, quel avenir pour le couple travail et sécurité sociale, avec le professeur émérite de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, le professeur Verquinte. Quelle évolution pour le régime spéciaux? Et là, ce sera avec Thierry Thoron, qui exerce sur Metz, en droit privé, donc Université de Lorraine. La sécurité sociale à l'épreuve de la transition écologique, avec le professeur de droit privé Willman, et puis le fonctionnement de la sécurité sociale à l'heure de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va changer, l'intelligence artificielle? Pour le moment, les grands changements, c'était autour de l'informatique, avec tous les problèmes aussi de la sécurisation des données personnelles. On voit que c'est quand même des enjeux forts.
Il y a eu plusieurs failles.
Oui, il y a eu plusieurs failles. Donc, d'ailleurs, dans le colloque de Troyes, cette question a été analysée avec toute la question de la cybernétique et de la protection des données des gens. Donc, il faut faire très attention à ça, avec aussi parfois les substitutions d'identité.
Oui. Hein, voilà. Alors, il faut noter qu'il y a aussi des échanges avec la salle qui sont prévus régulièrement. Donc, on n'est pas simplement invité pour écouter, mais aussi pour participer.
Pour interagir.
Voilà. Donc, ça sera avec M. Feck, responsable adjoint du secteur relations allocataires CAF, et M. Giard, manager stratégique de la direction générale de la CPAM. Et puis, ensuite, les nouveaux périmètres. Une redéfinition des périmètres sécurité sociale, action sociale. Alors, on a aussi toute la problématique, au passage, entre la sécurité sociale stricto sensu et les autres organismes qui sont contributifs de la protection sociale, en particulier les mutuelles. On voit, j'ai évoqué tout à l'heure les mutuelles étudiants par rapport au régime général. Et donc, y a aussi, on soulève aussi la question économique. La sécurité sociale gère, donc, comme j'ai dit, un budget considérable, mais avec des frais extrêmement faibles, de l'ordre, de 6%, quelque chose comme ça, par rapport à la masse, alors que les mutuelles, c'est beaucoup plus cher, et que si on avait un système davantage intégré, ça résoudrait plein de questions sur le plan économique. Donc, il y a une réflexion qui est peut-être à mener aussi là-dessus. Dans l'autre aspect, c'est M. Nicolas Da Silva qui traitera de la sécurité sociale, de la protection sociale complémentaire. Donc, et ça revient à ça, c'est le jeu des vases communicants. Est-ce que ça va continuer? Voilà. Et puis, on aura, et je termine là-dessus, l'après-midi, dans la deuxième journée, une table ronde interdisciplinaire importante avec le thème « Une réconciliation possible avec les ambitions initiales. Quelle place pour la solidarité face à une montée de l'individualisme ?» Là, c'est, ça nous concerne tous. Est-ce qu'on veut être dans le chacun pour soi? Ou est-ce qu'on est solidaire et qu'on arrête de râler parce qu'on cotise? Mais moi, je vais bien, mais moi, je n'ai pas d'enfant, je ne vois pas pourquoi. Bon, ou encore, il faut diminuer, on entend ça beaucoup aussi de la part de certains partis, parfois aussi du patronat, il faut diminuer, il faut réduire à rien l'écart entre le net et le brut de la feuille de paye, mais c'est la réduction de la solidarité qui se joue dans cet écart-là. Donc, il faut réfléchir. Donc là, on aura regard croisé avec Bernard Friot, avec Nicolas Da Silva, avec Étienne Thévenin, avec le professeur Clavier, professeur
philosophe
Verfien, voilà, et puis Nicolas, voilà, et, avec Madame Nicolas, qui est l'élu adjointe aux solidarités et à la santé de la ville de Nancy. Voilà, j'étais un peu long, mais vous avez tout le programme. Mais maintenant, vous allez le chercher avec le QR code dont j'ai parlé tout à l'heure.
On va passer au micro-trottoir. Donc, notre équipe s'est rendue cette semaine auprès des étudiants du campus Lettres de Nancy pour recueillir leurs réactions au sujet du 80e anniversaire de la Sécu. On écoute le micro-trottoir réalisé par Cassia et moi-même, puis on en discutera avec nos invités.
Est-ce que tu savais que l'année 2025 marquait les 80 ans du système de la sécurité sociale ?
Non, je ne savais pas que c'était en 2025.
Non, je ne savais pas que c'était les 80 ans.
Non, je n'étais pas du tout au courant.
Alors là, pas du tout.
Si je te dis sécurité sociale, tu penses à quoi ?
Sécurité sociale, je sais que c'est ce qui m'aide à rembourser mes soins, normalement.
Non, je savais pas que c'était les 80 ans.
Ça consiste en un système qui protège tous les citoyens de tout risque dans la vie, c'est-à-dire par exemple la vieillesse, le chômage, les maladies.
Bah, ça me fait surtout penser à la carte vitale, mais aussi à tout ce qui va être les soins gratuits, le remboursement aussi de certains trucs, non ?
Est-ce que tu te sers beaucoup de ta carte vitale ?
Oui, je me sers de ma carte vitale assez fréquemment, au moins une fois par mois.
Je sais que je m'en étais pas mal servi pour ce qui est des lunettes, des verres de lunettes, parce que c'est vrai que c'est bien pratique.
Pour ma part, quand je vais chez un médecin, ce qui est très rare, ou bien quand je vais chercher des médicaments sur prescription.
Alors là, pas du tout. Je pense que la dernière fois que j'ai dû l'utiliser, c'était pour récupérer des médicaments. Et encore, je suis même pas encore sûr de ça.
Est-ce que tu penses que les jeunes comprennent bien le fonctionnement de la Sécu ?
Alors non, je pense qu'on n'est pas du tout assez avertis sur la sécurité sociale, mais sur aucun fonctionnement mis en place par l'État. On n'est pas informés.
Effectivement, il doit y avoir des petites choses dont on n'est pas vraiment au courant si on n'est pas renseigné.
Moi-même, qui a que 21 ans, je ne sais pas totalement ce que ce système de la sécurité sociale peut nous offrir, ni même son fonctionnement. Donc non, je ne pense pas que les jeunes soient au courant.
Je pense que la majorité des gens en lui-même ne savent pas comment fonctionne la sécurité sociale. On sait très peu de choses dessus. On sait juste qu'elle existe, mais son fonctionnement, à part faire des recherches dessus...
Je te dirais qu'il y a pour moi... pas assez d'explications et d'informations concises et précises à ce sujet, tu vois. Je veux dire, ça manque vraiment d'informations, en fait.
Tu penses que la Sécu est un modèle à protéger ?
Je pense que c'est un modèle à protéger et même à développer si on peut et faire en sorte de mettre en place de meilleures choses.
Ouais, c'est un modèle à conserver parce que ça permet d'être un peu solidaire chacun, d'avoir la capacité d'aider les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des services de santé.
Pour moi, la sécurité sociale, ça doit être un modèle qui doit être protégé parce que ça incarne tout ce qui est la solidarité, le bien commun et l'équité entre tous les citoyens. Donc oui, pour moi, ça doit être protégé.
Ce que je changerais pour la sécurité sociale, ce serait d'abord plus la rendre plus préventive et moderne, je dirais, avec par exemple un meilleur accès aux soins partout, parce qu'il y a certaines zones où il y a des déserts médicaux. Et je la remettrai aussi au rythme de la société d'aujourd'hui, je pense.
Il y a quand même certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner. Donc oui, il faudrait quand même garder ce système-là pour que la majorité des gens puissent se soigner.
Oui, totalement. C'est un modèle même à défendre. C'est un modèle vraiment très majeur. C'est un modèle vraiment qui repose vraiment sur notre pilier de protection sociale. Et je pense que c'est un modèle vraiment à défendre et à préserver.
Est-ce que tu trouves que ce système est toujours adapté à notre mode de vie actuel ?
J'entends des gens dire que c'est pas trop adapté à notre mode de vie actuel. Après, bon, c'est un modèle qui fonctionne. Donc, je pense que le but, c'est plus de l'améliorer que de vraiment changer sur autre chose.
Je pense qu'il faudrait la garder, parce que et même pas la changer, parce que si on se compare avec les États-Unis, mais par exemple, les États-Unis comme ont un coût élevé en frais médicaux, parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. C'est ça qui est quand même assez grave. Donc ça veut dire que la majorité de la population n'a pas accès au fait de pouvoir se soigner.
Donc je pense que oui, actuellement il est encore adapté, mais qu'il faut vraiment le préserver parce qu'il est très fragile au vu de la dette, etc.
Si tu étais ministre de la Santé, tu changerais quoi dans la Sécu ?
Faciliter l'accès aux études de médecine. Et je dirais qu'on a besoin de plus de spécialistes dans tout ce qui est, par exemple, dermatologue, cardiologue, tout ça.
Et d'un point de vue objectif, je pense que c'est un modèle qui a besoin d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus de chômage, par exemple.
La première chose que je ferais, ce serait d'informer un peu plus sur comment fonctionne la sécurité sociale en soi, quels sont les avantages, mais aussi, je pense, les inconvénients.
Je ferai un plan hôpital, il y en a déjà eu, mais je ferai un plan hôpital pour vraiment recruter massivement des soignants et tout, quoi. Parce que vraiment, bah, on manque de soignants, on manque d'hôpitaux, c'est pas normal d'attendre dans un hôpital 6 heures, quoi.
Est-ce que tu trouves que les jeunes sont assez informés sur leurs droits en matière de santé et de protection sociale ?
Et je dirais qu'on a besoin de plus de spécialistes dans tout ce qui est, par exemple, dermatologue, cardiologue, tout ça.
On n'entend pas trop autour de nous des gens parler de ce à quoi on a droit, en fait, avec cette sécurité sociale. Donc là, de prime abord, je dirais non. Mais encore une fois, ça dépend de quelle personne utilise souvent ce système-là pour des raisons de santé. Et ceux-là, j'imagine qu'ils sont un peu plus informés. Mais de prime abord, comme ça, j'ai pas l'impression.
Moi, je trouve que les jeunes ne sont pas assez informés, justement, sur les droits de la protection sociale, parce que, pour moi, beaucoup de jeunes connaissent la sécu de nom, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle couvre, y compris moi-même. Donc, réellement, ni réellement comment y accéder. Donc, souvent, on découvre nos droits qu'en cas de problème.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ben écoutez, moi, je vais déjà vous dire quelque chose. C'est que dans les critiques historiques qu'on peut faire dans l'évolution de la sécurité sociale, il y a le fait qu'au départ, elle était gérée par les premiers concernés, par les questions de santé, etc. C'était les ouvriers. Aujourd'hui, bon, la population a changé, etc. Bien, mais on a verticalisé, et de plus en plus, c'est l'affaire de l'État. On a supprimé les conseils d'administration pour en faire des conseils. Ben, une modification, ça serait par exemple
de revenir
à des conseils d'administration. Et dans un conseil d'administration, pourquoi il n'y aurait pas un quota avec des jeunes, étudiants, par exemple, voilà. Tout au début de votre émission, j'ai entendu quand même le flash avec des étudiants qui sont suicidés.
Oui.
On touche à la question de la santé mentale qui est couverte, évidemment. On touche les questions de protection sociale sur des choses très importantes. Parce qu'on a déclaré grande cause nationale en 2027, la santé mentale, et en particulier pour justement les jeunes, les étudiants. Donc on voit que toutes ces questions-là, elles doivent être débattues. C'est très intéressant, votre micro-trottoir. On n'en parle pas suffisamment. Donc ça justifie d'un certain point de vue, je veux dire, les efforts que nous, on tente de faire. On est à disposition parce que c'est l'année des 80 ans de la sécurité sociale. Donc, on a une visibilité qu'on contribue à rendre plus importante. Mais les enjeux d'avenir nécessitent de se mobiliser. Et tous ceux qui veulent discuter, on est à votre disposition pour le faire, y compris dans des petits cercles de gens qui seraient intéressés. Donc, en particulier au niveau de l'ARES, Association d'études de l'histoire de la sécurité sociale pour la Lorraine-Champagne-Ardenne.
Moi, j'étais aussi très content de ce que j'ai entendu, parce qu'on entend beaucoup de critiques dans les médias vis-à-vis de la sécurité sociale. Et là, on voit effectivement ce que pensent beaucoup de ces jeunes qui sont parfaitement conscients de ce qu'elle apporte. Et je me sens aussi très encouragé parce qu'il y a effectivement un souhait de mieux comprendre le fonctionnement. Et c'est justement à quoi on s'attache, notamment dans ce colloque.
Et on peut dire aussi, parce qu'au niveau du CNES, on est attentif dans l'histoire à la question des jeunes, des enfants. Et quand on voit la mortalité qui existait avant la sécurité sociale et la rapidité avec laquelle les choses se sont réouvertes avec des enfants en bonne santé, il faut que se réjouir, on va dire, de ceux qui l'ont créé, en particulier, on l'a dit à plusieurs reprises, Ambroise Croizat, qui était, il faut le rappeler, un cégétiste, un ouvrier cégétiste que le général de Gaulle a nommé ministre du Travail. Et pendant 2 ans, il a fait plus que beaucoup de ministres, avec des progrès réels et constants, puisqu'on les a encore pour les gens, et en particulier concernant leur santé et leur bien-être. Et puis bien sûr, je n'oublie pas Pierre Larocque et d'autres qui sont venus après. Je pense par exemple Simone Veil, qui a fait aussi beaucoup pour la sécurité sociale.
Il y a quelque chose aussi. Il y a un peu tout qui m'a plus ou moins intéressé, mais il y a certaines interventions des étudiants que vous avez interrogés qui disaient que, oui, la sécurité sociale, on n'arrive pas trop à comprendre le fonctionnement, ni trop à quoi ça correspond, même les droits couverts. Et c'est un peu l'ironie, quelque part, de l'histoire, une ironie malheureuse, même... Parce que au départ, en 1945, quand le régime a été créé, la volonté, ça a été de créer une caisse unique. Une caisse unique qui vraiment balaye tout le fouillis institutionnel qu'il y avait avant. Parce qu'avant 1945, en France, bon, il y avait des choses. Il y avait les assurances sociales qui couvraient un tiers de la population. Il y avait des initiatives patronales, des initiatives syndicales. Et bon, c'était un système qui était vraiment très
dispersé.
Voilà, très dispersé. Très émietté, les gens y voyaient encore moins clair qu'avec notre système. Et malheureusement, déjà même au moment de la création, c'est pourquoi il y a eu l'appellation du régime général. Le régime général, ça a été créé à cette époque, c'était la volonté de créer vraiment une caisse unique qui couvre tout. Et bon, le problème, c'est qu'il y a eu dès le départ des résistances de la part de différents groupements politiques, de différentes forces politiques, qui voulaient conserver leurs régimes spéciaux et tout. Et bon, on compte énormément de caisses, etc. Si bien que même pour quelqu'un, un analyste qui voudrait un peu regarder, même pour lui, c'est un peu compliqué parce que déjà, la sécurité sociale, quand on dit la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on désigne le régime général qui représente 80% des dépenses de sécu? Ou alors, est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle la sécurité sociale au sens large? Parce qu'en fait, il y a 3 échelles. Donc, pour résumer, la première échelle, ce qu'on appelle la sécurité sociale au sens strict, c'est le régime général. Ensuite, si on met là-dedans tous les autres régimes de base obligatoires, le régime des agriculteurs, par exemple, etc., et on est dans la sécurité sociale au sens intermédiaire. Et puis après, si on y ajoute l'UNEDIC, donc ce qui indemnise le chômage, ensuite, si on ajoute les caisses de régime complémentaire, etc., on est dans ce qu'on appelle la sécurité sociale au sens large. Et donc, même là-dessus,
Juste un petit mot pour les étudiants.
Oui.
Ils trouvent commode, vous trouvez commode, je m'adresse à vous directement, d'utiliser votre téléphone portable, votre smartphone, pour payer avec votre carte bleue que vous avez introduite dedans. Éventuellement, vous en avez même plusieurs. Mais vous pouvez faire ça aussi maintenant avec la carte
avec
vitale.
L'application.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est quand même d'une grande commodité. Et vous voyez bien que la sécurité sociale qui fonctionne avec beaucoup de papier le fait de moins en moins.
Oui.
Et donc, participez à ça, puis c'est bon pour la planète.
Oui. Alors, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on rappelle aux auditeurs la date du colloque à Nancy, intitulé « L'avenir de la sécurité sociale, de la mutation du système de 1945 aux nouveaux enjeux ». Ce sera les 27 et 28 novembre à l'amphi AR06 de la Faculté de droit, sciences économiques et gestion. Pour retrouver toutes les infos, vous pouvez aller sur le site du CNAES, cnaes.org.